d'emploi. Mode d'emploi.
Bonjour et bonsoir, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, le format secret de fabrication, un format où des inspecteurs du travail, des agents de Pôle emploi et des salariés débattent et présentent leur vie et leur résistance dans les entreprises. Donc nous sommes sur 106.3 FM, sur Radio Fréquence Paris Pluriel, www.rfpp.net. Nous sommes ce soir dans une émission qui concernera essentiellement le nettoyage, donc du rififi dans le nettoyage. Pourquoi les salariés du nettoyage se soulèvent contre leurs conditions de travail et quelles sont les particularités de ce secteur? Alors on va commencer tout de suite par une annonce. Depuis déjà maintenant plusieurs semaines, des migrants qui ont été chassés de leur premier campement dans divers arrondissements parisiens, le 13e et le 19e, il me semble, non ? Le 18e, pardon. Ils sont en errance, en train de chercher des possibilités d'hébergement et ils sont obligés de bouger très régulièrement parce que la police les traque et les empêche de s'installer. Alors nous avons ici Boris de Solidaire de Sud Culture Bibliothèque Nationale de France qui est allé sur leur dernier lieu d'occupation en date. Donc peux-tu nous en parler, Boris?
Eh ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient au jardin d'Éol dans le 18e et ce matin, ils en ont été chassés après l'intervention des meilleures solidarités de l'OFPRA appuyé par la police avec des menaces. Et donc une partie des migrants sont partis dans un ensemble de centres d'hébergement un peu partout en banlieue, mais une autre partie n'ont pas suivi, soit parce qu'ils ont refusé, soit parce qu'ils n'étaient pas là au moment où ça s'est passé. Et donc là actuellement, ces migrants qui sont plusieurs dizaines donc, occupent le gymnase Jaurès à Lomière. La police est en train d'encercler les lieux, donc il est fort possible que d'ici ce soir, ils n'y soient plus, qu'ils en soient chassés, qu'ils doivent recommencer leur errance.
En tout cas, oui, le sens de donc cet appel est que nous avons besoin de soutien sur place. Donc depuis une heure et demie, ils occupent ce gymnase. Ils sont encerclés par la police, donc la présence policière appelle le soutien de tous les militants pour défendre ces salariés qui sont vraiment dans une situation, enfin salariés, donc ces migrants, ces demandeurs d'asile qui sont vraiment dans une situation extrêmement difficile. Nous reviendrons sur cette question au cours d'émission. En tout cas, une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, si vous êtes pas loin, vous pouvez arrêter d'écouter et vous rendre sur place le plus vite possible. Si vous avez cette possibilité. Voilà, nous allons parler bientôt donc du nettoyage. Je voulais faire juste une petite incise. Donc je vais commencer par présenter mes invités de ce soir. Donc nous avons Boris qui vient de parler, donc de Sud Culture Solidaire Bibliothèque Nationale de France, qui nous parlera de la grève qui a eu lieu chez les salariés d'Honnet qui travaillent à la Bibliothèque Nationale de France. Nous avons Christophe, donc de Solidaire Finances Publiques, qui va nous parler des grévistes des finances publiques, également du nettoyage, donc de cette fois-ci de la société TFN, qui travaille dans les sites des finances publiques. Et nous avons Étienne, que nous avions déjà invité à la précédente émission, mais cette fois-ci c'est pour parler donc des luttes dans le nettoyage. Donc Étienne de la CNT Solidarité Ouvrière, qui va nous parler des grèves dans les hôtels Hyatt. De Roissy, donc avec la société Aqua. Voilà. Bien entendu, votre serviteur, le camarade Bub, pour faire la présentation. Alors, je vais commencer tout de suite, par ne pas parler du nettoyage à proprement parler, mais du ménage que le procureur de Annecy voulait faire dans notre beau métier de l'inspection du travail. Alors, comment est-ce que le procureur d'Annecy entendait faire le ménage, donc à défaut du nettoyage, dans l'inspection du travail? Eh bien, c'est la célèbre affaire Tefal qui a beaucoup remué les colonnes de l'Humanité et de Libération depuis un an et demi maintenant. Puisque l'affaire sort dans l'Humanité en décembre 2013 Et elle remonte au début de l'année 2013. Laura Pfeiffer, inspectrice du travail en Haute-Savoie, demande à Tefal de renégocier son accord des 35 heures qu'elle juge illégal dans certaines de ses dispositions. Alors Tefal à Annecy, c'est à Rumilly en fait, dans la banlieue. C'est près de 2000 salariés, donc Tefal qu'on ne présente plus, les poêles, les friteuses, les casseroles, tout ce que vous voulez. Et ben là, il s'agit d'une méga casserole qui s'est accrochée au derrière de Tefal parce que les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Alors, initialement, Tefal réagit en cherchant à jouer des influences et donc contacte le directeur de Laura Pfeiffer afin qu'il fasse pression sur elle et qu'elle cesse donc de Dixit harceler cette grosse entreprise fournisseuse d'emploi. Donc le 19 avril 2013, l'inspectrice du travail est convoquée par son supérieur qui lui passe un méga savon qui la menace quant à sa carrière poursuite de sa carrière et lui dit qu'elle doit changer d'attitude vis-à-vis de Tefal. Alors bon, déjà c'est assez choquant en soi puisque normalement notre hiérarchie n'a pas à intervenir dans nos affaires, elle doit gérer d'autres choses, visiblement c'était pas le sujet là pour notre directeur et donc elle a déjà largement outrepassé ses droits. Mais en fait le poteau rose est découvert en octobre 2013 quand un mail anonyme arrive sur la boîte mail de l'inspectrice et un mail qui contient énormément de pièces jointes et qui indique qu'un énorme travail de lobbying et de relations et d'influence occulte a été fait par Tefal pour mettre en difficulté l'inspectrice. Ont été contactés successivement l'UIMM local, les renseignements généraux du département et la direction du travail pour essayer de casser la baraque, quoi. Tout simplement. Donc, alors, on pourrait se dire, oh, un gros pampan sur les doigts de Tefal. Non, non. Même si, évidemment, quand cette information circule, notamment par le biais des syndicats du ministère, le CNIT, donc Conseil National de l'Inspection du Travail, est saisi et dit que Laura aurait dû faire l'objet d'une protection par sa hiérarchie, que la hiérarchie aurait dû intervenir contre Tefal pour faire cesser les pressions. Ce n'est pas ce qui a été fait, et le CNIT, donc qui est notre conseil supérieur, condamne l'attitude de la hiérarchie. Mais c'est mieux que ça encore, car Laura, conformément à son travail, dresse un procès-verbal d'obstacle à l'intention de Tefal, donc l'adresse au procureur de la République. Le procureur local décide que non, Tefal, c'est des gens très très bien. Par contre, l'inspectrice du travail, elle vraiment abusé d'envoyer ses documents à ses syndicats, et que donc il va la poursuivre elle pour violation du secret professionnel et recel de documents volés. Quant au salarié qui est à l'origine de la fuite, bien entendu, il est retrouvé, licencié, et il est également poursuivi pour les mêmes faits. Donc voilà l'idée que le procureur se fait donc de la justice. C'est très intéressant. Alors quelques citations quand même, hein, puisqu'il s'est épanché dans la presse sur ses intentions. La vie réelle, c'est un monde d'influence et de communication, et c'est une bonne occasion de faire le ménage dans le corps de l'inspection du travail. Merci, monsieur le procureur. Alors il se fait rapidement retoquer par le directeur général du travail, qui est notre autorité supérieure, juste en dessous du ministre, et qui lui dit que, c'est à lui de faire le boulot de protéger l'inspectrice contre les influences extérieures indues, et que non, ce n'est pas lui qui décide qui est justifié pour être inspecteur du travail ou pas. Et donc, ce n'est pas à lui de faire le ménage dans la profession. Merci, monsieur le procureur. Ça ne suffit pas, il continue, évidemment. Alors, nous avons fait une jolie mobilisation le 5 juin devant le tribunal d'Annecy, où le report a été obtenu, donc le report est au 16 octobre. Il y avait quand même du beau monde, il y avait notamment Bernard Thibault, qui représentait non pas la CGT ce jour-là, mais l'Organisation Internationale du Travail, où il travaille désormais, et donc qui a lui aussi mis les points sur les i en disant que non, ce n'était pas comme ça qu'il fallait fonctionner. Donc voilà le monde merveilleux dans lequel on vit, une inspectrice du travail qui fait son travail et donc poursuivie par le procureur. Donc ça n'est pas possible. Nous allons continuer le combat. Le procès maintenant a été reporté au 16 octobre où nous serons également présents à Annecy. Et en attendant, il y a une pétition dont nous vous invitons à prendre connaissance et à signer. La pétition est sur change.org. Vous vous rendez sur le site et vous rentrez dans l'onglet de recherche TEFAL, tout simplement, et la pétition sortira. Il n'y a plus qu'à la signer. Voilà, ça c'était le petit mot de l'inspection du travail. Est-ce que quelqu'un veut réagir ? Oui.
Oui, oui. Je voulais quand même préciser que selon les informations diffusées dans la presse, votre directeur départemental du travail était redevable à l'entreprise d'avoir pris un stagiaire.
Tout à fait.
Qui lui avait adressé. C'est entre copains coquins, tout le monde s'arrange.
Ah bah, faut oublier les renvois d'ascenseur, ça existe hein, partout, hein, n'est-ce pas ? Alors, heureusement, il y a une justice dans ce pays. Le directeur du travail en question a été sévèrement puni, puisqu'il a été muté à l'Institut National du Travail pour occuper un placard doré. C'est comme ça que ça se passe dans l'administration. Voilà, vous faites une énorme connerie et on vous met au frais, mais dans un truc qui n'est pas non plus... C'est pas le bagne, hein. Il faut pas s'inquiéter pour lui. Voilà, voilà. Bon, bah, tant que ça continuera comme ça, donc je vous invite à signer la pétition, vraiment, parce que bah, c'est extrêmement important que ces choses-là circulent et soient connues du grand public. Voilà. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet. Donc, la question donc du nettoyage, le secteur du nettoyage. Alors, c'est un secteur assez particulier qui a des...
Je voudrais d'abord préciser que nos invités des entreprises de nettoyage qui devaient être là ne le sont pas pour une raison simple. C'est comme si on faisait une émission la veille de Noël ou le jour de Noël, puisque c'était le premier jour de Ramadan et que dans le nettoyage, oui, même s'ils ne sont pas croyants et pratiquants, la tradition veut qu'on fasse quand même Ramadan. Et que le premier jour, c'est quand même la grande fête, l'une des grandes fêtes de cette période pour nos camarades. Et c'est vrai que du coup, ça a rendu un peu compliqué l'organisation de cette soirée.
Bon, là, tu m'as outé violemment, Étienne, parce que c'est ma faute, ma très grande faute. Mea culpa, Maxime, mea culpa. C'est moi qui ai choisi de faire cette émission le nettoyage.
On aurait pu y penser aussi.
Hein. On aurait dû y penser, effectivement. Sur le nettoyage, justement, c'est un secteur qui a énormément de particularités. Je voulais Étienne que tu nous fasses une petite introduction, donc sur quelques caractéristiques clés qui font que c'est un secteur qui ne ressemble pas forcément à d'autres et qui a quand même ses particularités.
D'abord, deux chiffres 800 000 salariés, 15 000 entreprises de nettoyage en France.
Bon, c'est éclaté, quoi.
C'est très éclaté. Des entreprises qui, comme TFN, dont on va parler tout à l'heure, font 65 000 salariés. Alors, pas uniquement dans le nettoyage, mais 43 000 dans le nettoyage, grosso modo, au niveau national, à des petites entreprises de 3-4 salariés qu'on trouve. Et j'ai envie de dire que les conditions de travail dans les très grandes sont pas forcément mieux que celles qu'on trouve dans les très petites.
C'est, d'accord.
Deuxième particularité, à part quelques gros sites, je pense au secteur hospitalier, je pense à la RATP, je pense à des gros sites industriels comme les usines automobiles où on a plus de 100 salariés sur les sites. En règle générale, ce sont des salariés qui sont complètement isolés. Le salarié qui nettoie l'agence pour l'emploi de n'importe quelle ville, il est tout seul. Les salariés qui nettoient les agences bancaires sont tout seuls, ils ne se connaissent pas, contrairement à des sites de bureaux. Les salariés ne se connaissent pas, ils sont dans la même boîte, ils ne se connaissent pas, ils se rencontrent le matin dans le métro, et pas forcément pas forcément leurs collègues de la même entreprise.
Oui, faut voir on a des sièges, mais les sièges ne sont pas le lieu d'exécution du travail.
Voilà. Ils interviennent en sous-traitance chez un donneur d'ordre.
Donc on a un secteur où les entreprises sont éclatées et où les salariés sont éclatés et isolés sur leur site de travail. En fait.
Voilà. Vous avez une entreprise, elle peut avoir des... C'est le cas d'Aqua, par exemple. Ils ont des salariés dans toute la France.
D'accord.
Et un seul siège.
D'accord.
Aucune représentation en province. C'est-à-dire que les délégués à la solde du patron sont à Paris. C'est en général le directeur des... Enfin, le responsable d'exploitation, il porte bien son nom.
Du personnel.
Qui est le délégué syndical.
C'est parfait.
C'est comme ça, on a tout la main, l'exploitation, la surexploitation et le soutien syndical. C'est un secteur où on a quand même 70-80% secteur féminisé est un secteur où on a à peu près 70% de temps partiel. Mm-hmm. Contraint. Et même quand on est sur un temps plein, on peut faire 3h30 le matin très tôt, 3h sur une prestation de midi dans un restaurant d'entreprise, et 3h le soir, ou 2h le soir. Voilà, c'est-à-dire, on est, même quand on a un temps plein, on est sur des prestations éclatées. Mmh. On a très peu de temps complet sur une seule vacation.
Alors donc ça veut dire que le travail syndical est extrêmement difficile. Enfin, je parle pas effectivement du directeur d'exploitation qui est aussi le délégué voilà. syndical. Bon, là lui on n'en parle pas. On parle d'un vrai travail syndical.
Ça, un vrai travail syndical, c'est-à-dire qu'un délégué syndical qui a une vingtaine d'heures de délégation dans les entreprises importantes. Eh bien, il va, avec son créditeur, il va pouvoir visiter 2, 3 sites, 4 sites maximum dans son mois. Quand vous pensez que, par exemple, Chalencin, une entreprise de sur la branche propreté pure, a 2000 salariés, elle doit avoir 500 sites.
Hmm. D'accord.
Il lui faut plusieurs années pour voir les salariés de tous les sites. On a une vraie difficulté syndicale. Voilà. Des salariés très isolés, des structures syndicales compliquées à structurer du fait de cet éclatement. Voilà un petit peu le tableau. Et puis on a un patronat de combat quand même. On a un patronat de combat, hein, je reviendrai. Et en face, on a des syndicats qui n'ont de nom syndical, mais dont la couleur est le jaune foncé.
D'accord, le jaune foncé. Bon, on va tempérer. Alors, on va passer l'émission à tempérer le propos, hein, parce que effectivement,
pas partout. Il y a des équipes syndicales qui sont extraordinaires dans toutes les organisations, que oui. Même quand les directions syndicales sont un peu vérolées.
Mais on va voir qu'effectivement il faut un peu ruser, et donc on va parler de des fois où soit il y a effectivement des équipes combatives qui se constituent sur place, ce qui est le cas d'Aqua apparemment, dont tu vas nous parler tout de suite, soit il y a une solidarité trans-situation qui se crée, et là c'est effectivement ce dont on va parler dans le cadre de la Bibliothèque nationale de France ou des finances publiques. Alors rapidement on a eu je ne sais pas d'ailleurs à quand ça remonte, les grèves au Hyatt de Roissy.
Alors de Roissy, c'était fin mai, mmh. tout à fait fin mai, ça devait être le 26 mai. À quoi c'est une entreprise, fait partie d'un groupe qui fait essentiellement du nettoyage hôtelier. Et le syndicat du nettoyage de la CNT Solidarité Ouvrière est implanté au sein d'Aqua, notamment à travers une forte section d'une vingtaine d'adhérents sur... on regroupe à peu près un quart des salariés du nettoyage de l'AIAT, qui est donc l'AIAT de Roissy, avec la particularité de l'hôtellerie, c'est que les hôtels sous-traitent la partie ménagère des chambres, femmes de chambre, équipiers, pour échapper au respect de la convention collective de l'hôtellerie, qui, même si elle n'est pas mirobolante, présente quelques avantages pour...
On retombe donc sur celle du nettoyage pur.
On retombe sur celle du nettoyage pur. Convention de la propreté, et les salariés sont payés à la chambre. Même si les entreprises le nient, on explique que pour faire une chambre à l'AIAT, il faut, en une heure, on fait 3 chambres. Et bien, à la fin du mois, on divise le nombre de chambres faites par tel salarié, et ça lui fait le nombre d'heures. Mmh. Et quand il n'y a pas un taux d'occupation qui n'est pas suffisant, eh bien, on lui dit la veille au soir à 21h, demain, c'est pas la peine de venir travailler. Et les salariés sont jamais ne peuvent pas organiser leur vie. On peut pas organiser sa vie quand c'est pas un peu à l'avance les jours où on va travailler, les jours où on va pas travailler. Et par contre, s'il y a beaucoup de chambres, eh bien, on va te faire faire des heures supplémentaires qui sont pas payées en heures supplémentaires. Il faut pas. Et tout est à l'avenant. Il y a eu, alors dans l'hôtellerie, c'est un secteur qui bouge, on est déjà venu en parler ici, et c'est un secteur qui bouge, où il y a de fortes mobilisations. Il y a eu, dans les deux hôtels Hyatt de Paris, l'Hyatt Vendôme et l'Hyatt Madeleine, il y a eu des grèves, des victoires importantes avec des remises en cause du système du paiement à la chambre, l'instauration d'un 13e mois qui avait une partie des salariés des hôtels. Enfin, il y a eu des luttes victorieuses. Et à l'Hyatt Roissy, ni les salariés de... Il y a une terreur qui règne à l'initiative de l'entreprise Hyatt. Tous les syndiqués qui ont tenté une action syndicale public ont été virés. C'est donc là, on a un terrain où la direction elle-même est très très de l'entreprise de nettoyage est soutenue par le donneur d'ordre pour avoir des pratiques antisyndicales. Et quand la grève éclate sur les conditions d'application d'un accord qu'on avait signé un an et demi plus tôt, enfin qu'on avait tenté de négocier un an et demi plus tôt et qu'on justement n'avait pas signé parce que c'était pas satisfaisant. Sur l'instauration d'un 13e mois, du respect un tant soit peu du code du travail. Le délégué CFDT, qui est aussi responsable du site, a passé sa journée, je dis bien le délégué syndical CFDT de l'entreprise, a passé son temps à téléphoner pour faire venir des salariés d'autres sites pour casser la grève. Et le troisième jour, s'il devait arriver, est arrivé. Il est arrivé quand il s'est pointé avec des salariés d'autres sites. Les collègues ont essayé de discuter. Ça a dégénéré. Il y a eu des noms qui ont été échangés.
Ah oui.
La police de l'air et des frontières est intervenue sur le site. Mais le plus drôle, c'est que quand il y a une situation comme ça, les organisations syndicales calment le jeu. Non, là, la CFDT a déposé plainte contre nos militants, le syndicat CFDT nous a écrit une lettre en rappelant les grands principes de la liberté du travail et tout ça, et on a fini par répondre un petit peu excédé de cette attitude, que la liberté du travail, c'était aussi que les syndicalistes ne jouent pas les jaunes permanents sur les conflits, qu'ils fassent pas grève, passe encore, mais qu'ils la cassent. Quand on est syndicaliste,
Faut venir à RFPP, hein, parce que ici, quand on casse la tête d'un jaune, on ne se fait pas arrêter, on a une médaille. Bon, alors sur cette bonne petite blague, nous allons passer à une petite séquence musicale où Bob Dylan se demande quand est-ce que les choses vont bien changer.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must
Bonsoir, vous êtes toujours sur RFPP 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi, le format secret de fabrication. Aujourd'hui, donc, du rififi dans le nettoyage. Pourquoi les salariés du nettoyage se lèvent et se battent? Et comment ils s'y prennent pour contre-attaquer contre les patrons? Alors, nous venons de voir que dans l'hôtellerie, effectivement, le nettoyage était très souvent sous-traité pour que les conditions de travail soient pires et que le travail soit plus intense et plus éclaté. Et c'est un schéma qu'on retrouve aussi dans le secteur public, puisque de nombreux établissements publics administratifs ou même des administrations elles-mêmes ont sous-traité depuis un certain temps déjà leurs services de nettoyage. Alors, il faut savoir que dans le public, tous les 4 ans, il faut renégocier les marchés publics, c'est une obligation légale, et qu'à cette occasion, bah, systématiquement, le travail est intensifié, les contrats sont réduits, et donc on se retrouve avec, pour faire le même travail, de moins en moins de salariés. C'est donc des choses qui peuvent générer un mécontentement tout à fait compréhensible chez les salariés qui n'entendent pas se laisser faire. Par exemple, il faut savoir quelque chose qui est peu connu, c'est que la grève à Radio France a démarré par une grève des salariés du nettoyage. C'est-à-dire qu'ils ont, ils se sont lancés bien avant le reste des salariés de Radio France, et grève avec laquelle ils ont continué à être solidaires tout le long. Donc ça, c'est une des conséquences. On va voir que ça peut arriver dans des établissements publics tout à fait divers, puisque j'ai ici donc Boris de Sud Culture Solidaire, Bibliothèque Nationale de France, qui va nous parler de la situation à la BNF et de la grève victorieuse donc des salariés de la BNF.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un gros site qui est le site de Tolbiac, donc qui est ouvert 7 jours sur 7 au public, et donc il y a actuellement 45 personnes qui travaillent pour le nettoyage, qui sont donc employées par Honnet. Honnet a repris le marché en janvier 2013. Et alors, nous, on estime que le marché a baissé d'à peu près 20%. La direction de la BNF dit que pas tout à fait, les calculs sont là. Mais quoi qu'il en soit, Honnet estime qu'elle a eu trop de personnel par rapport au prix où elle a repris le marché. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, en gros, incité au départ les agents qui étaient proches de la retraite. Et elle n'a pas remplacé la plupart des départs, justement. Donc, ce qui fait qu'en un peu plus de 2 ans, on a perdu une quinzaine d'agents. Donc, grosso modo, ils étaient une soixantaine il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui, ils sont plus que 45, 44, selon si on compte le chef de site ou non, pour faire le même travail à peu de choses près. Donc, le résultat, c'est que la charge de travail a été fortement augmentée. Pas forcément les cadences dans le sens où il n'y a pas des passages plus fréquents, au contraire, il y en a moins souvent, mais ça fait que les poubelles, s'il faut les vider tous les 2 jours, c'est la même quantité de déchets que tous les jours. Donc, en fait, la charge de travail est la même. Donc, il y a beaucoup plus de fatigue, d'arrêt maladie, ils en ont marre. Et qu'en plus, le fait que, vu qu'ils sont beaucoup moins nombreux, dès qu'il y a un absent, pour X ou Y raison, maladie, vacances, etc., il y a plus de souplesse pour que d'autres puissent faire le travail à sa place ou que ça puisse attendre. Et donc, en fait, souvent, ils se retrouvent à faire 2 postes en même temps, le temps que l'autre revienne. Et ça peut prendre des fois quelques semaines, hein. Même s'il y a quelques renforts de temps en temps, donc c'est vraiment une charge très lourde.
Juste une précision, 2 postes payés un seul.
Oui, bien sûr, ouais, bien sûr, bien sûr.
C'est plus drôle.
Bien sûr, bien sûr. Même s'il y a quelques heures supplémentaires de temps en temps, mais c'est rien comparé à la charge de travail. Voilà, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais elles sont pas du tout équivalentes à la charge de travail réelle. Donc voilà. Alors, il faut savoir que à la BNF, les salariés du nettoyage sont syndiqués à Sud Culture directement, donc dans la même section syndicale que les salariés de la BNF directement, que les agents de la BNF, depuis maintenant près d'une quinzaine d'années. Mmh. On a mené avec eux un ensemble de conflits sociaux, en fait, grosso modo, à chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise, ça crée un conflit, qui ont tous été victorieux à peu de choses près, qui a permis de garantir un ensemble d'acquis. Et entre autres, par exemple, c'est des agents qui sont tous sur le site depuis un certain nombre d'années. Il n'y a pas de clause de... Il n'y a pas de clause de mobilité, ce qui fait que c'est les mêmes équipes qui sont là depuis très longtemps, qui se connaissent, qui travaillent ensemble, etc. Donc en fait, ça fait une équipe très très soudée.
C'est une situation qui a quand même, enfin, qui a sa particularité, on va dire, dans le secteur.
Voilà, en tout cas, on l'a gagné par Etienne, les luttes.
Etienne, tu voulais.
Oui, c'est quand même l'application de la convention collective, ce qu'on appelle l'annexe 7 ou l'article 7 maintenant dans sa nouvelle version, qui prévoit que quand le donneur d'ordre change d'entreprise, les salariés, sous certaines conditions, passe d'une entreprise sortante à l'entreprise entrante.
En restant sur le même site.
En restant sur le même site.
D'accord.
Et c'est vrai qu'à l'occasion des changements de prestataires, si je puis dire, de société, on se bat tous, et vous avez gagné là-dessus, pour supprimer les clauses de mobilité qui sont incluses de manière totalement illicite dans les contrats de travail.
Tout à fait. Donc voilà. Grosso modo, il y a à peu près 70% des agents qui sont syndiqués, mais les autres suivent. Et donc, ça faisait 2 ans à peu près qu'on alertait aussi bien la boîte que la direction de la BNF sur le fait que, ben, à un moment donné, ils cherchent le travail, que les gens ne pouvaient plus, qu'ils en avaient assez, qu'il fallait des embauches. Ou des heures en plus pour les agents qui sont à temps partiel. Voilà, donc la boîte a fait la sourde oreille jusqu'au bout. Donc, on a décidé, nos adhérents se sont réunis en assemblée générale, ils ont décidé de partir en grève reconductible à partir du 9 avril. Mmh. On a choisi exprès la journée de grève interprofessionnelle pour marquer à la fois leur participation à cette lutte et le fait qu'il y avait un soutien et qu'on appuyait la grève. Et donc, ils sont partis en grève le 9 avril. C'est une grève qui a duré 13 jours, puisqu'un accord a été conclu le 21 avril et l'orientation essentielle était des embauches supplémentaires. Mmh. En CDI, hein, bien sûr, c'était pas des renforts ponctuels, mais des vraies embauches et des heures de travail en plus pour les agents qui sont à temps partiel actuellement. Ça, c'était l'essentiel des revendications. Il y en avait aussi qui avaient été mis sur le matériel, qui est en partie inadapté, donc ils voulaient des améliorations au niveau du matériel. Sur quel problème de classification, de grille d'emploi pour certains agents, mais en fait, c'était abandonné assez vite, puisque c'était concerné que quelques personnes, ils voulaient bien montrer qu'ils avaient un problème collectif. Et sur la prime de fin d'année, puisqu'ils ont déjà une prime de fin d'année, mais ils voulaient qu'elle soit revalorisée. Mmh. En sachant que, là encore, c'était pas essentiel pour eux, et quand dans les négociations, ça n'a pas abouti, ils l'ont mis de côté.
D'accord.
En disant qu'ils reviendraient dessus. Et donc, il y a eu une grève qui a été dure, en ce sens que l'entreprise a refusé d'abord de négocier pendant quasiment une semaine, en estimant qu'elle ne voulait rien lâcher. Hein. C'est pas qu'elle ne savait pas qu'il n'y avait pas de grève, mais elle disait qu'elle pouvait rien faire, qu'elle avait pas de marge de manœuvre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout fait pression sur le donneur d'ordre, la BNF. Donc, on a fait une pétition en ligne, on a interpellé la direction de la BNF à plusieurs reprises, on a rencontré avec les grévistes. On a intervenu auprès de la culture, donc de la tutelle, donc le ministère de la culture. On a rencontré le conseiller social de la ministre, puisque tout ça, ça fait assez désordre, hein. C'est-à-dire que, et ça, c'est le, l'avantage, si je puis dire, d'une grève dans le ménage, c'est qu'à un moment donné, ça se voit. C'est-à-dire que quand les poubelles débordent, quand les toilettes sont plus nettoyées, etc., on se rend compte que bah, c'est une tâche essentielle. C'est pas du superflu. C'est pas un travail annexe. Voilà, c'est le cœur de métier. Et sans eux, bah, on peut plus fonctionner normalement. Mmh. Effectivement, l'hygiène en pâtit vraiment. Et on peut pas accueillir des lecteurs, lectrices dans des conditions pareilles. On peut pas travailler, nous, dans des conditions pareilles. Donc les collègues de la BNF ont été solidaires dès le début, et très très fortement, hein. Ils ont signé la pétition de données pour la caisse de grève, ils ont participé aux différents rassemblements qu'on a pu faire. On a fait des manifs tous les jours dans les couloirs de la BNF, à destination bien des lecteurs lectrices qui aussi ont appuyé fortement que des collègues. Et donc la direction d'Honnête a dû reprendre les négociations, au bout d'une semaine de négociations où à chaque fois en fait ils pinaillaient sur tout, ils laissaient traîner, il fallait revenir tous les jours, etc. Ils ont accepté 3 embauches supplémentaires en CDI. Dont 2 pour des salariés qui étaient déjà en CDD sur le site. Donc on a
la pérennisation,
voilà, on a pu garder 2 collègues précaires. Pour le 3e, on n'a pas pu, c'est quelqu'un de l'extérieur qu'ils ont voulu faire venir parce que la personne en question avait très peu d'ancienneté, donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas de geste à faire dans ce cas-là. Elle était là depuis à peine un mois en fait. Les 2 autres étaient là depuis beaucoup plus longtemps. Il y a eu 100 heures en plus de travail à répartir entre les agents qui n'étaient pas à temps plein, sur le site qui voulaient travailler plus. Et il y a eu des avancées sur le matériel. Bon, comme je l'ai dit, la prime de fin d'année a été mise de côté parce que la boîte ne voulait pas avancer sur ça et que pour les grévistes, ce n'était pas essentiel, ils n'allaient pas bloquer un accord sur ça.
Donc les points essentiels, embauche, ça a été obtenu, heure supplémentaire, enfà heure complémentaire, on va dire plutôt, étoffer les horaires hein, pour faire le travail, pour pouvoir faire le travail. Donc ça a été obtenu et réexamen du matériel qui n'est pas adapté.
Tout à fait.
D'accord.
Donc ils ont gagné sur tous les points, même si effectivement on aurait sûrement préféré un peu plus d'heures ou une embauche supplémentaire, en particulier pour le collègue qui venait d'arriver, qui était en CDD, qu'on n'a pas pu garder. Donc l'essentiel a été gagné, même si on n'a pas eu tout ce qu'on voulait dès le départ, en sachant qu'on a aussi un autre volet, c'est que pour nous, le nettoyage n'aurait jamais dû être externalisé. C'est une activité essentielle dans notre établissement, on le voit bien, il suffit qu'il fasse grève et tout s'arrête, et ça se voit, et ça salit tout, etc. Donc nous, on revendique que ce soit réinternalisé au sein de notre établissement en tant qu'agent public, bien sûr, dès que possible, et en attendant qu'il y ait une charte sociale de la sous-traitance qui encadre ça au maximum, pour garantir la reprise de tous les acquis, pour garantir l'obligation d'avoir des vrais, un vrai respect du droit syndical, on parle bien des syndicats de lutte hein, dans ce cas, syndicats de combat et pas des syndicats jaunes, un vrai respect des institutions représentatives du personnel, là encore, quand elles marchent réellement, et la possibilité pour les salariés du nettoyage d'interpeller directement la direction de la BNF pour la plupart des différents problèmes qu'elle rencontre et qu'eux ne disent pas que ça ne les regarde pas parce qu'ils sont que les gens qui donnent le marché et qu'ensuite ça ne les concerne plus. La direction de la BNF a dû accepter qu'on entame des négociations là cet automne sur cette charte sociale. Alors on verra ce qu'il en sortira. Nous espérons qu'elle sera la plus contraignante possible, la plus précise possible et qu'elle nous servira le plus. rien ne le garantit, on verra bien ce qu'il y a de négociation, mais ça fait grosso modo 10 ans qu'on la réclame, c'est la première fois qu'ils acceptent qu'on ouvre des négociations là-dessus.
Alors on est très, enfin je suis très intéressé par ce que tu racontes sur la charte sociale, et notamment bon sur cet événement. Alors je vais me permettre une petite anecdote personnelle. Donc moi je travaille dans le 93, donc dans notre unité territoriale de l'inspection, nous avons un prestataire de nettoyage, nous aussi, comme d'habitude, puisqu'ils ont aussi externalisé du côté de la directe, et il s'avère que c'est honnête. Et donc, bah, les mêmes pratiques à peu de choses près. Alors évidemment, nous, c'est pas un énorme site comme la BNF, hein, donc il y avait 2 salariés pour faire 6 étages, donc tous les bureaux, toutes les poubelles, etc. Évidemment, ils ont trouvé que ça faisait trop. Alors, on a appris que une des salariées allait voir son contrat coupé en deux et qu'elle allait devoir se déplacer à l'autre bout de Paris au milieu de la journée. Comme ça, ça lui fera les pieds, comme on dit. Hein. Évidemment, ils n'ont pas vérifié, mais elle a des problèmes de santé, elle a une famille assez nombreuse à charge, donc tout ça, bien sûr, va lui arranger sa vie de vraiment, c'est merveilleux, le monde merveilleux d'honnête. Et donc, on a voulu savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Alors on se dirait, l'inspection du travail, on a les moyens. Ben non, puisque rien de tout ça n'est illégal. Par contre, on a attaqué, on est passé par notre propre CHSCT. Nous aussi, on a interpellé le donneur d'ordre, puisque c'était nous. Donc, on est passé par notre CHSCT. On a signalé qu'il y avait un grave problème de santé. Et là, pour le coup, on était de nouveau en pleine compétence, on va dire, et qu'il y avait aucune évaluation des risques qui avait été fait avant le changement de contrat, et qu'on trouvait que c'était scandaleux qu'à l'inspection du travail, on pratique ce genre de choses. Et la salariée s'est vue rétablir dans ses droits, s'est vue rétablir dans son contrat, et nous avons toujours 2 salariés à temps plein sur le site. Mais ça, je voulais en profiter pour faire une transition en fait, pour ensuite passer la parole à Christophe sur les finances publiques. Ça prouve que y compris dans l'administration, il faut être assez vigilant sur ce genre de choses. C'est-à-dire que les gens qui nettoient les bureaux, ce sont aussi des collègues. Et ce qui leur arrive nous concerne aussi. Voilà. Donc il y a toujours une possibilité d'agir. Alors bien entendu, c'était pas une grève, mais ça concernait une seule personne. Et on a préféré utiliser d'autres méthodes. Mais il faut être vigilant sur les collègues qui nettoient nos bureaux, hein, parce que on peut leur faire des misères. Et si on n'est pas attentif, on n'en saura rien. Ah oui, tu voulais rajouter quelque chose.
Oui, alors pour préciser, il y avait quand même 42 grévistes sur 44 salariés, donc 84% de grévistes. À la fin de la grève, il y a 3 jours de grève qui leur ont été payés, la boîte ayant refusé de payer les autres jours de grève en disant que c'était pas leur habitude. Donc on a ouvert une caisse de grève puisque nous notre but c'est de payer tous les jours de grève à tous les salariés pour que donc ils n'aient rien perdu dans ce conflit social. Donc on a collecté déjà, on va dire, la plupart de l'argent dont on a besoin, mais il nous manque encore à peu près 1 000 euros, grosso modo, puisqu'il faudrait qu'on réunisse à peu près 10 000 euros, en fait. Donc on peut envoyer des chèques de soutien à l'ordre de Sud Culture, Sud et Culture, à l'adresse de la section Sud Culture de la Bibliothèque nationale de France, quai François Mauriac, 75013, Paris. Voilà, donc on espère boucler ça prochainement, d'ici cet été, pour pouvoir payer tous les heures de grève à tous les grévistes, et pouvoir ainsi estimer qu'on a effectivement terminé victorieusement cette grève.
Mmh. Eh ben, nous ferons un rappel évidemment de cette adresse et de cette possibilité de soutenir les salariés en lutte à la fin de l'émission avec les autres rappels. Oui, Étienne.
Oui, je voulais dire, tu as évoqué le fait que quand le nettoyage n'est pas fait, dans certains établissements, ça ferme. Et moi, j'ai souvenir de grève à la Cité des Sciences. Où on avait des rats qui couraient dans le hall de la cité, et la direction, sur ordre du ministère, a été obligée de fermer l'établissement au public pendant plusieurs jours. Simplement parce qu'il y avait une quinzaine ou une vingtaine de salariés du nettoyage en grève. Donc on a là, et petite histoire, c'est la fête à Honnête, j'ai envie de dire. Honnête, les malhonnêtes, c'est facile, mais il fallait le faire. C'est maintenant, on a qui nettoie la Cité des Sciences, et ils ont procédé à un peu près, et c'était dans le contrat commercial qu'ils ont signé, au dégraissage. Ils avaient pour mission, sur la durée du contrat, de dégraisser 20% de l'effectif. C'est énorme. C'est prévu dans le contrat commercial.
C'était ce qu'on a découvert, c'est que c'était également ce qui avait été prévu par la directe. C'est à la demande de la directe que les contrats ont été dégraissés dans l'inspection du travail.
Donc c'est une politique. C'est le donneur d'ordre qui demande aux entreprises de faire des coupes sombres.
C'est une politique volontariste de la RH fonction publique, il faut le savoir. D'ailleurs, justement, nous sommes en train de parler de la fonction publique, nous allons parler des finances publiques, donc je passe la parole à Christophe, donc, qui est de Solidaires Finances Publiques, et eux aussi ont eu l'occasion de vivre leur grève des salariés du nettoyage des services d'impôts.
Bonsoir. Oui, en effet, sur les sites des finances publiques, on a eu dernièrement une grève des salariés du nettoyage qui a duré un peu plus de 2 mois, donc de mi-avril à mi-mai. Des salariés de l'entreprise anciennement TFN, qui a changé de nom, maintenant on les appelle Atalian, comme chaque ou TFN Atalian, mais il y a eu des changements de chaque type, de toute façon chaque entreprise de ce type change régulièrement de nom pour se refaire une virginité. Ils ont repris le marché à Veolia à peu près depuis 2009 sur les finances publiques, ce qui a été l'occasion pour eux, dans le terme du nouveau contrat, de réduire évidemment, cette fois-ci, pas le nombre de salariés, mais le nombre d'heures de ménage alloué à chaque salarié, de réduire le matériel pour un travail équivalent. Alors là, on est toujours sur le cadre de contrat sous-traitance fonction publique, avec une petite particularité, c'est que c'est un contrat cadre qui va concerner 12 sous-contrats, et avec les difficultés de savoir qui est le vrai donneur d'ordre, puisque la Direction régionale des finances publiques renvoyant au service des achats de l'État, service d'achat de l'État renvoyant au niveau des services d'achat de la préfecture, ça permet à chacun de se défausser complètement des responsabilités au niveau des contrats. Alors plus précisément sur pourquoi cette grève, c'était principalement au début tout simplement sur le simple respect en fait de la législation du travail, où il y avait déjà eu une première grève en 2012 à ce sujet. Bon, les classiques erreurs sur la date d'ancienneté des salariés, puisqu'ils sont repris à chaque fois après changement d'honneur d'ordre, bah on récupère pas les années qu'ils ont faites avec l'ancien patron.
Et ça a une incidence sur le salaire.
Oui, puisque ils bougent dans la grille, c'est ça, en fonction
ils
de...
Ils ont une prime d'expérience qui est à la date du premier emploi.
Mmh. Donc voilà, bravo.
Il y a les primes de remplacement qui étaient versées en lieu et place d'heures complémentaires qui ne sont évidemment pas payées au même tarif. Ces heures complémentaires qui n'étaient pas précisées dans le contrat de travail. Pas d'informations sur les formations auxquelles les salariés pourraient s'inscrire. On oubliait régulièrement de verser les primes d'ancienneté ainsi que le remboursement de la quote-part du pass Navico. Pas de convocation aux visites médicales, évidemment. Et des contrats de travail sur une base inférieure à 16 heures par semaine, contrairement à une nouvelle réglementation qui est, je crois, depuis 2014.
Même, il me semblait qu'il y avait une clause particulière dans le nettoyage.
Le paradoxe, c'est que les organisations syndicales qui se sont battues pour qu'on ait un 24 heures hebdomadaire minimum pour les temps partiels ont signé, toutes les organisations syndicales représentatives, CGT compris, ont signé une disposition de la convention collective du travail, de la propreté, qui prévoit les employeurs peuvent faire des contrats de 16 heures.
D'accord.
C'est-à-dire que...
Donc c'est déjà inférieur à la loi.
C'est inférieur à la loi, c'est un accord dérogatoire. Faut savoir que la majorité des contrats, c'est des contrats de 65 heures mensuelles hein, dans le nettoyage. La grande majorité des temps partiels, c'est 3 heures le matin ou 3 heures le soir. Et quand vous n'avez qu'une prestation, ça vous fait 65 heures, 15 heures hebdomadaire, 65 heures mensuelles. On a là un vrai, vrai problème. Atalian, TFN Atalian, c'est quand même le deuxième groupe dans le secteur du nettoyage, hein, avec 53 000 ou 54 000
salariés. 65 000, je crois.
Non, mais avec les activités...
D'accord. Donc on a vraiment
un peu de la sécurité à côté.
La sécurité du bâtiment, de la climatisation,
des
espaces verts.
Nous allons effectivement revenir sur la lutte de TFN aux finances publiques et parler plus généralement de la manière de s'organiser dans ce secteur syndicalement pour résister. Après un petit coup de fauve qui va nous remonter le moral en nous disant comment on résiste.
Bien sûr. pas dire le contraire.
Ça a été rationnel. Mais sans qu'on se casse la gueule.
Certaines circonstances, on peut effectivement se casser la gueule, malheureusement. Mais bon, c'est... Qu'est-ce que je veux dire ? C'est quand les gens jouent les briseurs de grève, il faut qu'ils sachent à quoi ils s'exposent. Ça, c'était pour la petite histoire. On va reprendre donc sur TFN, parce que, bon, il y a quand même une sortie de conflit. Alors, en demi-teinte, si j'ai bien compris, Christophe, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ?
Bon, en fait, sur les sujets des revendications des salariés... TFN La Fête Talion, déjà faut voir à quel niveau d'exploitation ces salariés sont lorsqu'on voit les revendications minimales qu'ils avaient demandé. On était quand même sur réclamer un 13e mois, 16 heures minimum par semaine, une progression dans la grille des salaires qui allait augmenter leur salaire de 10 euros par an. Une participation de l'employeur au financement d'une assurance complémentaire, suppression de la clause de mobilité, Étienne en parlait tout à l'heure, qui est remis légalement à chaque fois dans les contrats quand on change de prestataire, des tenues de travail fournies par le patron et une prime de blanchisserie.
On en était là.
C'est obligatoire. Hein.
Voilà, en était là. Sur tout ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui n'est pas dans les conventions collectives ou la réglementation du travail, TFN n'a pas lâché jusqu'au bout. Une grève qui a quand même duré 2 mois, où il y avait 23 salariés sur 4 sites des finances publiques qui ont tenu. Les 23 salariés ont tenu jusqu'au bout, avec le soutien historiquement de la CGT Finances Publiques, puisqu'aucun syndicat à TFN n'était... intéressé, ou du côté tout simplement des salariés, hélas.
Hein. C'était de l'autre côté, tu
voilà.
veux dire.
Voilà.
C'est là le gros problème. Directeur d'exploitation, c'est ça?
Voilà.
D'accord.
Et donc, ce sont les syndicats des finances publiques, avec en premier la CGT Finances Publiques, qui a créé une intersyndicale de soutien cette année avec Solidaires Finances Publiques et FODGFIP, qui ont soutenu les salariés en grève, mis en place la caisse de grève, essayé de faire pression au niveau de l'administration, avec la difficulté que j'ai évoquée tout à l'heure, où on a une multiplicité des donneurs d'ordre, on ne sait plus qui c'est, le service d'achat de l'État, la DRFIP, tout le monde se renvoie la balle. Et donc, au final, TFN ne voulait surtout pas lâcher là-dessus. Et ils ont eu cette possibilité de maintenir la propreté dans les lieux, parce qu'on n'avait que 23 salariés en grève sur les 120 qui travaillent sur Paris. Et donc, ils ont fait du remplacement sur les sites en grève pour casser cette grève. Donc aujourd'hui, un résultat en demi-teinte. Bon, il y a eu un collectif de grève qui s'est véritablement monté. Et les décisions étaient vraiment prises par les grévistes. Hein, ils ont constitué une équipe syndicale suivie et qui suit aujourd'hui l'application de ce qu'ils ont obtenu en fin de grève.
D'accord.
Donc ça, c'est un point à suivre. Et après... Avec cette combativité, on va dire jusqu'à victoire, mais quand même ces quelques revendications qu'ont abouti, ça leur permet eux de reprendre confiance en eux, de voir ce qui est possible de faire et discuter avec les autres collègues sur les autres sites. Et après maintenant, en soutien, ça pose la question de l'action des syndicats, des finances publiques par rapport à ça.
Oui.
Comment ils doivent se positionner, comment faire amener la question dans les services de tout salarié, toute personne travaillant à un site des finances publiques est un collègue. Donc
oui,
comment on tire là-dessus? Quel est le champ de syndicalisation de nos syndicats par rapport à ça et quelle action on va avoir dans le futur?
D'accord. Alors, donc justement sur la question du champ de syndicalisation, Boris, tu nous avais précisé que depuis maintenant, historiquement, effectivement, à Sud Culture BNF, le champ de syndicalisation, c'est tous les salariés qui travaillent à la BNF.
À Sud Culture, en règle générale, au niveau national.
D'accord.
Effectivement, le choix a été fait dès le départ parce qu'on est syndiqué dans le public et dans le privé au niveau de la queue de la... culture, de considérer que tout salarié travaillant sur un site de la culture, public ou privé encore une fois, peut être adhérent à notre organisation syndicale et donc on couvre tous ces champs, y compris donc toute la sous-traitance, que ce soit le nettoyage, mais ça pourrait être d'autres secteurs,
sécurité,
restauration,
accueil.
Voilà, donc ensuite il y a des secteurs où on a pu s'implanter, le nettoyage entre autres, d'autres où on n'est pas implanté parce que ça s'est pas fait, soit parce que c'est très dur de s'y implanter, soit parce qu'il y a d'autres organisations syndicales qui couvrent des boîtes. avec qui on travaille, hein, quand elles sont à Solidaire ou même d'ailleurs quand elles peuvent être à la CGT, mais avec qui on parle de bonnes relations. Mais on les couvre parce que pour nous, effectivement, le but, c'est que la plupart de ces activités ne soient pas externalisées, mais soient réinternalisées, parce qu'on considère que c'est un site de travail, une section syndicale.
D'accord. Ça c'est la position officielle donc de Sud Culture. Je ne crois pas que ce soit celle de Solidaire Finances Publiques encore. Ou ça, le débat a lieu.
Actuellement, ça n'est pas possible au niveau des statuts. Maintenant, ce type de grève pose en effet des questions à ce sujet-là. Questions qui sont complexes aussi par le fait que les salariés qui travaillent au niveau des finances publiques ne travaillent pas que sur le site des finances publiques. Pour certains, ils travaillent aussi au niveau d'autres employeurs privés. Et après, ça demande aussi une réflexion sur quel appui syndical on peut faire, comment former aussi des équipes syndicales à du droit privé lorsqu'on travaille dans le public.
Ce qui est aussi un vrai problème, effectivement.
La question auquel on est confronté, c'est de reconstituer les communautés de travail. Et je voudrais faire de la publicité pour un document qui vient d'être fait par la CGT des hôtels de prestige et économique. C'est un syndicat de l'hôtellerie, hein, pour faire court, avec lequel notre syndicat travaille énormément sur tout le secteur de l'hôtellerie et qui vient de publier un outil pour les équipes syndicales sur cette thématique. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans l'hôtellerie parce qu'on a des salariés qui font des chambres qui peuvent être sur le même site, salariés directement de l'hôtel ou salariés d'une boîte de sous-traitance. Il faut savoir que en général la cadence de travail n'est pas la même, bizarrement. Et donc tu donnes l'hôtel, l'adresse plutôt.
L'adresse, c'est le syndicat CGT des hôtels de prestige et économiques, 3 places du Général Koenig, 75017 à Paris. Mais le document lui-même est consultable et donc téléchargeable en PDF sur http://www.chronique-du6ouvrière avec un e à la fin .fr. Donc ça, c'est pour télécharger ce document, qui est effectivement ce genre d'initiative. Est crucial. Il faut continuer à offrir aux salariés du nettoyage la possibilité de résister. Il faut continuer à leur proposer la solidarité des secteurs et des sites sur lesquels ils travaillent. Donc ça, c'est extrêmement important. L'émission va bientôt s'achever et donc je vais vous faire le rappel de quelques rendez-vous importants. Donc si vous avez encore le temps, bien sûr, passez au gymnase Jean Jaurès pour voir si vous pouvez encore faire quelque chose pour les migrants qui sont sur place. Pour signer la pétition de soutien à Laura Pfeiffer, c'est change.org. Attendez que je vérifie mes notes. Voilà. Alors attendez. Et puis nous avons toujours. Donc si tu peux, Boris, nous redonner l'adresse pour soutenir les salariés honnêtes.
Section Sud Culture de la Bibliothèque nationale de France, quai François Mauriac, 75013, Paris. Et donc les chèques sont à l'ordre de Sud Culture.
Voilà. C'est ça. C'est www.change.org. Donc tapez TEFAL dans l'onglet de recherche pour signer la pétition pour Laura Pfeiffer. Voilà, écoute, il me reste à vous souhaiter bonne soirée et à la prochaine émission de Mode d'emploi.